Ferrera Ferrari.
Recherche du vrai Frankenstein, l'homme qui voulait contrôler nos cerveaux, l'étrange village de l'ange de la mort, de mystérieuses expériences russes sur le sommeil, ce sont nos dossiers du jour dans le bureau des mystères.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le bureau des mystères, je suis Mathias et je ne suis pas seul dans ce numéro car je suis accompagné de Raphaël. Raphaël, comment ça va et surtout, est-ce que tu peux te présenter ?
Oui, bonjour, je suis Raphaël.
Voilà,
exactement. Vous me connaissez en tant que neveu de Henri Michel.
Oui, j'imagine que tous les auditeurs de Riviera Ferraille ont reconnu cette voix caractéristique.
Ouais. Et qu'est-ce que je fais ? Comment je peux me présenter ? Je suis en thèse, je fais un doctorat en neurobiologie. Et donc je suis dans un labo de recherche où on travaille sur les maladies neurodégénératives et voilà, donc apprenti chercheur, on va dire.
Voilà, une qualité scientifique dont nous avons énormément besoin pour ce numéro, car ce soir, on a décidé de vous parler de savants fous. De savants fous, donc on a des histoires un petit peu inquiétantes qui arrivent, et comme Raphaël adore aussi, je le sais, les creepypastas, ouais. Comme vous nous en réclamez à corps et à cri depuis plusieurs numéros, il va vous en raconter une ce soir, mais avant ça, place au dossier du jour. L'étrange village de Joseph Mengele. Durant sa fuite en Amérique latine, après la défaite de l'Allemagne nazie, Joseph Mengele se serait arrêté dans un petit village brésilien et il y aurait conduit de mystérieuses expériences sur les jumeaux à la fin des années 60. Alors déjà, qui était Joseph Mengele, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, peut-être ? Si vous ne vous souvenez pas de vos cours d'histoire, je vais vous rappeler brièvement qui était cette personne, cette odieuse personne. C'était un officier nazi. Durant la Seconde Guerre mondiale, il était médecin au camp d'extermination d'Auschwitz et il a eu un rôle très actif dans la Shoah. En plus de sélectionner les déportés à exterminer dans les chambres à gaz, Mengele a mené des expériences atroces. On parle de création de monstres, d'amputations, bien pire encore. Mmh. Ceux qui ont vu des reportages, des documentaires sur la Seconde Guerre mondiale savent de quoi je parle. Si vous ne le savez pas, allez-y, regardez à vos risques et périls. Sa réputation était tellement sinistre qu'on l'a surnommé carrément l'ange de la mort. Il avait notamment pour mission d'augmenter le nombre de naissances dites ariennes pour le régime nazi. Vous savez, c'est les fameux blonds aux yeux bleus qu'aimait tant Hitler à l'époque. Pour y arriver, il a fait beaucoup de recherches et de tests, notamment sur les jumeaux, car Joseph Mengele avait une obsession pour la gémellité. Il pensait qu'il pourrait créer des jumeaux ariens, des parfaits petits clones qui deviendraient de parfaits soldats pour l'armée nazie. Un programme inquiétant qu'il n'a jamais visiblement réussi à réussir, puisque en 1945, ce criminel de guerre a pris la fuite et il n'a jamais été récupéré. Après plusieurs années en Europe, il a pris un bateau pour l'Amérique latine en 1949, et ensuite il a beaucoup bougé, donc entre l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay, et à la fin des années 60, il aurait posé ses valises au Brésil, à São Pedro do Butiá, un petit village situé juste à côté de Cândido Godoy, notre destination du jour. Alors, Cândido Godoy, c'est au Brésil, et c'est là qu'arrive Joseph Mengele, à la fin des années 60, et à cette époque-là, il est plutôt pauvre, en fait, et il peine à survivre. Le journaliste brésilien Jorge Camarasa raconte dans son livre, qui s'appelle Le Mystère Mengele, le bien nommé, qu'il y a beaucoup de témoignages d'anciens de Cândido Godoy qui disent avoir vu Mengele en train d'échanger des dents en or contre de la nourriture, des dents en or qui ont sans doute appartenu à des déportés, et qu'il aurait récupéré en partant des camps. Ouais. Bonne ambiance. Alors Mengele ne serait pas arrivé à Cândido Godoy par hasard, hein. ce serait un choix. Un local raconte que, donc dans le livre de Jorge Camarasa, que le village était carrément, je cite, une mine d'anciens nazis. En fait, le village est composé à 80% de descendants de colons allemands.
Oula, ouais, d'accord. C'était un club med de nazis.
Un petit peu, et ça date pas d'hier, en fait, parce que donc 80% de descendants de colons allemands, donc on y parle surtout allemand, autant que brésilien, donc c'est assez impressionnant. Il y a carrément des photos de classe de la fin des années 30, où on voit des enfants qui posent avec le drapeau brésilien, le drapeau allemand et le drapeau nazi déjà. Ah. Alors que Hitler n'a pas encore lancé la Seconde Guerre mondiale.
Ah ouais, d'accord.
Donc, quand on parle de mines d'anciens nazis, voilà, c'est bien de ça dont on parle. Hein. Donc, quand il arrive dans les environs de Cândido Godoy, Mengele est toujours fasciné par la gémellité et la reproduction, Un peu avant, il avait aidé des paysans en Argentine en augmentant le taux de naissance d'animaux dans leur élevage en utilisant justement ces procédés-là. Plusieurs fermiers près de Candido Godoy qui ont été interrogés donc, par le journaliste qui a fait ce livre disent que Mengele se faisait passer à l'époque pour un vétérinaire. Et en tant que rare homme de médecine sur place à l'époque, il aurait commencé aussi à s'occuper d'humains, et ouais. plus particulièrement de femmes enceintes. Selon les recherches de Camarasa, toujours, il leur aurait fourni des traitements expérimentaux et se serait servi de Candido Godoy comme une espèce de laboratoire pour reprendre ses expériences sur les jumeaux. Et il serait, je dis bien serait, arrivé à réaliser son rêve de créer des dizaines de jumeaux blonds aux yeux bleus.
Ce qui en nous plein amène... milieu du Brésil.
En plein milieu du Brésil, dans une ville d'anciens colons où il y avait déjà ouais. des blonds aux yeux bleus. Hein, ouais. Mais voilà, il aurait réussi voilà, à créer des dizaines de jumeaux blonds aux yeux bleus, ce qui nous amène à Candido Godoy aujourd'hui, parce que là on était à la fin des années 60. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 6600 habitants sur la commune, dont un nombre incroyable de jumeaux. À Linha San Pedro, c'est un petit hameau qui est rattaché à la commune de Candido Godoy, le taux de jumeaux atteint même les 10% de la population. Alors c'est un pourcentage hallucinant à l'échelle du monde, ouais. surtout quand on sait qu'il n'y a qu'en moyenne 1% de jumeaux au Brésil. Donc c'est 10 fois plus en termes de pourcentage qu'ailleurs dans le Brésil. C'est même unique au monde comme, ouais. comme chiffre. Candido Godoy est carrément surnommé la Terre des Jumeaux. C'est son surnom officiel, c'est-à-dire que si tu viens là-bas, il y a un panneau avec marqué la Terre ouais. des Jumeaux. Les habitants de Candido Godoy en sont tellement fiers de cette particularité-là qu'ils ont même créé un musée, la Maison des Jumeaux, et qu'ils organisent tous les deux ans une grande célébration, la Fête des Jumeaux. Donc c'est vraiment inclus dans le patrimoine, dans la culture locale.
Bah, ils se sont fait martyriser, autant rentabiliser. Hein. Il faut amuser.
Bah, c'est ça, et ouais, ça attire du monde, parce ouais. que c'est assez curieux quand même ouais. comme endroit. C'est ouais, un lieu assez étrange. Alors sachant qu'il y a bon nombre de ces jumeaux qui sont blonds aux yeux bleus, ce qui correspond au physique aryen que cherchait Mengele, on a vite fait de se dire que ces expériences donc des années 60 ont réussi. C'est la thèse du journaliste, en tout cas dans son livre, Le Mystère Mengele, et dans un autre livre qu'il a sorti après, parce qu'il s'est beaucoup intéressé aux, ouais. aux nazis en Amérique latine. Mais c'est pas la seule explication possible. Il y a d'autres ah. explications à ce phénomène, voilà, 10% de jumeaux c'est quand même énorme. On a cherché d'autres explications, alors il y en a deux grandes. Je vais vous dire la première qui n'est pas ma préférée, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc pour une partie des habitants, ce n'est pas l'œuvre de Mengele, mais celle des puissances sacrées de la nature.
Ah.
Voilà. Okay. La fête des jumeaux, donc, qui se déroule à Linha São Pedro, donc là où il y a le plus grand nombre de jumeaux, se rapproche presque d'un rituel païen, un peu religieux sur les bords. En fait, depuis 20 ans, les habitants se rassemblent devant une fontaine de la mère de la fertilité. Ça représente une femme qui tient dans ses bras deux enfants blonds aux yeux bleus. Voilà. Et c'est au pied de cette fontaine que les enfants se font baptiser par des prêtres qui sont eux aussi jumeaux.
Ça fait... Ah ouais, ça commence à faire... c'est chelou.
Donc voilà, cette fontaine-là aurait carrément des propriétés mystiques. En fait, on raconte, donc ça c'est la légende, hein, qu'un jour, un laboureur n'arrivait pas à avoir d'enfants et il aurait pleuré dans la rivière. Et ses larmes se seraient mêlées au courant et à la pluie. Et ça aurait formé une parfaite symbiose entre la divinité, l'humanité et la nature. Ça, c'est la légende. Et à compter de ce jour, la fontaine qui s'alimente donc dans cette rivière aurait le pouvoir de créer des jumeaux. C'est une croyance qui est très ancrée à Candido ouais. Godoy. Mais bon, ça reste qu'une croyance. Hein. Et il y a eu des recherches qui ont quand même été menées au cas où pour voir si cette eau-là avait effectivement des propriétés. Et tout ont conclu qu'il s'agissait d'eau, tout ce qui est de plus ordinaire. Donc, il n'y avait pas le moindre élément favorisant la naissance de jumeaux à l'intérieur. Donc, ouais. cette piste-là est simplement du folklore.
Ouais, mais ça fait quand même bien flipper au niveau des deux prêtres qui...
Ah oui, non mais ça oui.
Ça, est-ce qu'ils parlent, ils sont synchro quand ils parlent? Est-ce qu'ils disent, ils complètent leurs phrases?
J'ai pas pensé à chercher de vidéo de baptême à Candido Godoy, mais ce serait extrêmement ouais. flippant si ça se passait comme ça. Alors la dernière hypothèse, et celle qui je pense va te convaincre le plus.
Ah, c'est ton préféré.
En tant qu'esprit scientifique. Ouais. Alors moi je suis plus du... Alors on en parlera plus tard, moi je suis plus Mengele quand même. Mais tu, voilà, tu vois.
Je suis plus Mengele.
Non, je suis pas Team Mengele, je pense que c'est Mengele qui l'a fait. Alors la dernière hypothèse, c'est une généticienne qui l'a apportée. Ouais. Elle s'appelle Ursula Matte et elle s'est penchée sur le mystère de Candido Godoy en 2011. Alors elle a vite écarté voilà, la légende, hein, puisqu'on a prouvé que l'eau n'avait pas de propriété particulière. Et aussi l'histoire de Mengele, puisqu'elle a fait des recherches et elle dit qu'il y avait en réalité un taux de naissance gémellaire élevé bien avant l'arrivée de Mengele. En fait, dès 1948, il y avait déjà des taux hors normes de jumeaux là-bas.
Ouais.
Comme Mengele n'est arrivé qu'à la fin des années 60, éventuellement il aurait pu aider,
ouais.
mais le phénomène était déjà présent avant, quoi. Donc, et surtout qu'à l'époque, à la fin des années 60, le village était à peine relié à l'électricité. Et c'était compliqué d'avoir des conditions nécessaires pour mener des expériences comme ça sur les naissances de jumeaux. Enfin, il n'y avait pas les infrastructures nécessaires pour ce genre de choses. Pour elle, l'explication, elle est ailleurs. Il faut plutôt aller la chercher dans les gènes des premiers colons allemands qui se sont installés à Candido Godoy. Elle a découvert qu'il y a un gène, donc, qui s'appelle le P53. On parlera peut-être aux généticiens, moi ça ne me parlait pas. Qui serait a priori plus fréquent chez les mères de jumeaux. Et justement, il est très présent chez beaucoup de familles de Candido Godoy. Et par un hasard qui est assez fou, la plupart des premiers colons allemands auraient eu ce gène en eux. Donc à partir de là, leur absence de mobilité dans la région, le communautarisme et quelques mariages consanguins aussi, auraient fait perdurer la présence de ce gène jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à atteindre des proportions énormes, ce qui fait qu'il y aurait plus de naissances gémellaires. Alors c'est compliqué d'affirmer avec certitude que le gène P53 favorise vraiment les naissances gémellaires, c'est plus quelque chose qu'on retrouve chez les personnes qui ont eu des jumeaux.
Ouais.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a une prédisposition à avoir des jumeaux chez les personnes qui ont ça? Ça, c'est hyper compliqué à prouver. Scientifiquement, tu vois, on peut prouver l'inverse. On peut dire, chez les femmes qui ont eu des jumeaux, il y a ce gène-là. Mais on ne peut pas dire que c'est à cause de ce gène-là ou grâce à ce gène-là qu'elles ont des jumeaux.
Mais ce gène, si je peux me permettre, en biologie, oui, il est très connu. La protéine, il code pour une protéine qui est super connue, dans la protéine P53, et qu'on appelle le gardien du génome. Moi, je me rappelle toujours ma prof, à chaque fois, elle me disait... elle faisait le cours et elle disait P53, le gardien du génome. Elle était un peu exaltée. Et c'est une protéine super importante. Je ne savais pas que c'était lié à la gémellité.
Voilà, c'est les travaux d'Ursula Matteau ont prouvé qu'il était plus présent chez les personnes qui avaient des jumeaux.
D'accord.
Donc voilà, est-ce qu'il y a un lien? En fait, c'est ça le problème, c'est que pour Ursula Matteau, c'est vraiment le gène P53 qui est la clé du mystère. Mais sa théorie n'est pas complète parce qu'elle n'a pas réussi à le prouver avec certitude. Elle a quand même le soutien des autorités locales qui refusent de croire que Mengele puisse être responsable, ce qui est quand même un peu normal puisque effectivement ça fait un peu désordre que ce qui fait aujourd'hui la fierté de la ville, c'est le résultat d'expériences d'un criminel de guerre nazi. Ouais. C'est un peu compliqué, je l'admets.
Ils ont le choix entre Mengele, des forces mystiques et une journaliste généticienne locale. Ils vont choisir
la généticienne. Je voulais savoir ce que t'en pensais, donc j'imagine que t'es plus du côté de la généticienne sur ce coup-là.
Bah, du coup, ici, Mengele, il paraît... apparemment, le phénomène a commencé avant l'arrivée de Mengele. Ouais, ça paraît... Mais je sais pas... Je sais pas du tout, je sais pas si t'as la réponse. Mengele, qu'est-ce qu'il faisait comme expérience et sur quoi il travaillait pour essayer d'augmenter
le... Alors, je n'ai pas le détail. Alors, j'ai des trucs horribles qu'il y avait à l'époque, mais qu'il aurait pas pu reproduire à Candido Godoy, je pense.
Parce que, ouais, ça m'étonnerait qu'il travaille sur la génétique. Enfin, je veux dire, il pouvait pas faire de manipulation génétique, je pense.
Ouais, à l'époque, c'était pas assez avancé en termes de sciences pour pouvoir faire ça.
On était avancé, mais sur l'humain, même maintenant, on a du mal, donc... je sais pas comment il a fait, ou alors favoriser justement une sélection de ceux qui...
Peut-être, c'est possible. En fait, c'est pour ça que moi j'ai un peu envie de croire à l'histoire de Mengele quelque part. Je pense qu'il y avait beaucoup de jumeaux déjà avant, comme l'a prouvé Ursula Matteau, ça c'est un fait, c'est acté. Mais je me dis que peut-être que Mengele y est allé justement parce qu'il qu'il y avait un fort taux de jumeaux. C'était connu à l'époque, il y avait eu un premier boom de jumeaux en 1948. Ouais. Donc celui dont Ursula Matteau parle, peut-être que c'est arrivé jusqu'aux oreilles de Mengele, qui étant fasciné par les jumeaux, s'est dit « je vais aller là-bas ». Moi, ma théorie, c'est ça, c'est que Mengele est allé là-bas pour ça, et qu'il a ensuite essayé de travailler dessus. Est-ce que ça a fonctionné ou pas? Le fait est qu'aujourd'hui, il y a encore plus de taux de jumeaux qu'avant. Est-ce que c'est juste la suite naturelle, parce qu'il y avait de la consanguinité, ce genre de choses, ou est-ce que c'est parce qu'il a justement contribué à augmenter le taux? C'est ça le mystère pour moi. Et là, j'ai un peu envie d'y croire. De me dire qu'il y allait parce qu'il y avait des jumeaux, qu'il a travaillé dessus, et que ça a contribué à augmenter le truc. Mais que c'est pas logique. Uniquement de son fait, effectivement, ça a été prouvé que non.
Non. Et c'est. Tout ce qui touche à Mengele, cette histoire, je connaissais pas. Je connaissais vraiment. J'avais entendu parler des travaux qu'il avait réalisés au gîte, tout ça.
Oui, qui sont atroces.
Qui sont affreux. Et. De cette réputation d'ange de la mort. Et en fait, pourquoi ange aussi? Parce qu'il y a eu des témoignages. Apparemment, c'était un homme magnifique. Il était très, très, très beau. Et Auschwitz, notamment, on a des témoignages de femmes qui étaient totalement pétrifiées par lui parce qu'il par les atrocités qu'il faisait, mais en même temps qu'il le trouvait absolument magnifique, et c'est pour ça qu'on l'a appelé en fait l'ange de la mort aussi.
Puis il avait un autre surnom, c'était tonton, enfin il se faisait appeler tonton Mengele par les enfants juifs d'Auschwitz, parce qu'en fait c'était quelqu'un qui en apparence essayait d'être sympathique avec les gens, mais qui était un monstre total. Mais c'est voilà, en fait en apparence il se faisait passer pour quelqu'un de d'extrêmement gentil. Enfin voilà, c'est fou, ce personnage est fascinant de toute façon.
Ouais, mais là on est vraiment, là t'as bien commencé parce que c'est l'archétype du savant fou. On va voir après au travers des histoires qu'est-ce que c'est un savant fou, comment on peut définir, et là c'est vraiment l'archétype du savant fou quoi, qui respecte aucune norme.
Je te propose de classer cette affaire-là, enfin on va la classer, mais on se garde quand même la possibilité de revenir dessus si une théorie assez solide vient expliquer le nombre de jumeaux, parce que la théorie d'Ursula Matthé est incomplète. Mais en attendant, on va classer et on va passer au dossier suivant. Très bien.
José Delgado, l'homme qui voulait contrôler vos cerveaux. Alors j'ai choisi de vous parler de José Delgado. José Delgado, en fait, donc, qui est espagnol, comme son nom l'indique. Et pourquoi je l'ai choisi ? Parce que justement, pour moi, il y a un gros contraste avec Mengele. Parce que là aussi, on est sur des expériences, vous allez voir, qui sont très limites. Mais beaucoup moins que Mengele, parce que Mengele c'était affreux.
C'est pas bien compliqué.
Voilà, on n'est pas dans le savant fou pur et dur, parce que justement, on va voir, est-ce qu'on peut vraiment l'appeler savant fou ? Qu'est-ce qui tient de la folie et qu'est-ce qui tient vraiment de l'expérience scientifique ?
J'ai envie de dire même que c'est l'interrogation principale de ce dossier. Ouais. Est-ce que cette personne est un savant fou ?
Exactement.
C'est tout, voilà, c'est toute la question qu'on va se poser tout au long de ce dossier-là.
Et on va le voir, à mon avis, chacun aura son opinion.
Ouais.
Donc, José Delgado est né en 1915 à Ronda, en Espagne. Il étudie, donc il fait des études de médecine. Au début, il voulait être ophtalmo, comme son papa. Mais il tombe amoureux de la biologie, et surtout de la neurobiologie, des mystères du cerveau, influencé notamment par Ramón y Cajal, l'espagnol qui était très fort en neurobiologie, un des pionniers. Donc il fait son doctorat à Madrid en physiologie et il commence là-bas ses travaux. Et il est directement inspiré par un Suisse qui s'appelle Walter Rudolf Hess, qui travaillait sur la stimulation cérébrale sur des chats, des chiens et des primates. Donc là on va parler vachement d'expérimentation animale, donc pour âme sensible, s'abstenir. En 1946, en fait, il décroche, c'est là que sa carrière va exploser, il décroche un financement pour rejoindre l'université de Yale. Et puis ensuite rapidement il va avoir un poste permanent là-bas où donc il aura beaucoup de moyens pour réaliser ses expériences, et il trouve en fait qu'il a été recruté là-bas dans ce département de recherche par John Fulton. Et en fait Fulton, je sais pas si tu connais, c'est donc un chercheur qui a fait une expérience où il a réussi selon lui à rendre calme et conciliant un chimpanzé qui était très violent. Et comment il a fait ? Tout simplement en détruisant très, très simplement les lobes préfrontaux de l'animal. Et en fait, c'est un des pionniers de la lobotomie, en fait, qui est une des plus grandes erreurs de la neurobiologie, parce qu'on était convaincus que ça pouvait soigner des gens.
C'est-à-dire qu'on était vraiment convaincus au moment qu'on va planter un gros truc dans le cerveau de quelqu'un.
Un bon pic à glace.
Et ça va l'aider.
Exactement. Mamie va être beaucoup plus calme. C'était une des plus grosses erreurs, mais Delgado était complètement à l'encontre de la lobotomie, il trouvait ça grotesque. Mais il y a cette même volonté, vous allez le voir, de physiquement rentrer, perforer la boîte crânienne pour influer sur le cerveau et in fine sur le comportement d'une personne ou d'un animal dans les premières étapes de ses travaux. Et alors, comment il fait cela ? Je vais vous laisser Delgado vous l'expliquer lui-même. En français, s'il vous plaît, c'est un reportage d'une télévision française qui est allée le voir à Madrid. Et c'est assez... là, on voit justement ce que je vous disais par rapport au traitement de ces expériences. Soit c'est un génie, soit c'est un fou. Parce que là, on va voir le journaliste, en fait, il est contre la période. Il arrive...
À tout petit peu orienté.
Voilà, il est orienté. Il veut informer, mais quand même, il a son opinion. C'est le Élise Lucet de l'époque. Il est là pour casser des gueules quand même. Il vient informer, mais il est là pour casser des gueules.
On vous laisse écouter.
À Madrid, le professeur Delgado travaille sur des chats. Il a refusé que nous filmions son animalerie, mais a accepté la visite du laboratoire. Le professeur Delgado n'est peut-être pas un professeur comme les autres. En se servant de l'animal, il veut libérer l'homme, à partir de techniques très particulières.
La technique que nous avons développée ici dans nos laboratoires, c'est l'implantation des électrodes et aussi des tubes dans les cerveaux des animaux. Les chats, les singes, Les électrons sont très petits, points, peut-être 7 points, et aussi 2 très petits tubes, ils sont implantés dans les cerveaux, comme ça.
Pourquoi faire?
Alors, eh bien, pour l'exploration des cerveaux. Ici, c'est le cerveau d'un singe. Ici sont tous les mystères. L'amour, toutes les passions des hommes sont ici.
Voilà, il finit en disant « Toutes les passions des hommes sont ici ». Et en fait, voilà, il est obsédé par les passions des hommes et surtout une grosse... Bon, on va lier ça aux passions, c'est la violence, en fait. Il a été profondément marqué durant son histoire, en fait, puisqu'il a été en prison 5 mois sous le régime de Franco, parce qu'il était dans l'armée, le corps médical de l'armée républicaine. Il a été emprisonné, puis libéré. Il a subi des exactions, et il a vu les exactions au quotidien en Espagne durant la dictature. Et il a toujours été obsédé par l'agressivité et comment réduire, faire disparaître les comportements agressifs. Et donc, en fait, il a fait plusieurs expériences, notamment une expérience avec une colonie de singes où il y avait un mâle qui était très agressif. Et dans la colonie, en fait, il y avait un levier qui permettait donc aux autres singes d'actionner une stimulation dans ce mâle agressif qui était implanté. Et donc, les faits relatés sont que il y a une femelle qui a trouvé le rapport entre les agressions des mâles et le levier, et elle comprenait qu'elle pouvait arrêter ce comportement agressif, et elle n'arrêtait pas d'appuyer dès que ce mâle était agressif. Et c'était, lui-même le dit, c'était son rêve fou à l'échelle de cette colonie, que le peuple puisse contrôler un dictateur fou. Son expérience la plus connue, tu la connais aussi, c'est celle du taureau.
Oui, qui est relatée dans l'excellent livre Elephants on Acid, ouais. Donc Éléphants sous acide, qui n'a pas été traduit en français malheureusement, d'Alex Bose, qui compile, je vous le mettrai dans les liens sur Riviera Ferraille, qui compile en fait des expériences scientifiques complètement dingues, et celle-ci en fait partie.
Voilà, ça a été particulièrement... ça a beaucoup tourné, elle est facile à trouver sur YouTube si vous voulez, on vous la met pas parce que ça n'a aucun effet en podcast.
Oui, c'est très très visuel pour le coup.
Mais voilà, c'est ça vraiment qui l'a fait... c'est ça qui l'a rendu connu au grand public. Il s'est quand même pas mal mis en scène, puisqu'il se met en scène dans l'arène avec le taureau qui est prêt à le charger, même qui le charge, et lui, en appuyant sur le bouton, arrive à stopper net l'animal qui allait le charger. Donc sur le moment, il avoue qu'il a eu très peur quand il appuie sur le bouton.
Mais c'est l'expérience qui demande quand même d'avoir vraiment confiance en ses travaux.
Oui, exactement, il faut avoir confiance. Je sais pas si je l'aurais fait. Donc voilà, c'est l'explosion médiatique pour lui, vraiment grâce à ses travaux. Il fait la une du New York Times, il y a des reportages de télévision, comme on a pu le voir juste avant.
Il faut dire qu'il a la gueule de l'emploi pour passer dans les médias. Il a une tête, un petit peu de savant fou quand même.
Ouais, il a des traits à couper au couteau. Il a une tête de savant fou. Je trouve ça classe qu'il parle français. Ça fait encore un petit peu plus peur avec un accent.
C'est pas mal. Avec son petit accent espagnol.
Ouais. Donc il a fait d'autres expériences, pas que sur l'agressivité, aussi sur l'instinct maternel, où il arrive à supprimer l'instinct maternel d'une femelle macaque, qui la femelle après stimulation n'a plus envie de s'occuper de son bébé, par exemple. Ou aussi l'arrêt de la sensation de faim chez un singe qui était affamé, on lui a donné enfin une banane, il se jette dessus, il commence à la manger, puis stimulation, et puis il jette la banane, il n'en a plus envie, il n'a plus faim. Donc là quand même on commence à être un petit peu dans quelque chose qui est glauque, encore si c'est pour arrêter quelqu'un qui est agressif, mais là ça devient un peu glauque.
Et c'est vraiment jouer au petit dieu en fait.
Ouais, exactement, et surtout qu'il ne s'est pas arrêté aux animaux, il a continué, il a aussi travaillé sur des humains. Donc des gens qui étaient volontaires, aussi des patients. Notamment, il y a deux expériences intéressantes. Une qui est réalisée sur une jeune fille qui a été implantée. Et il se trouve que la jeune fille a un comportement totalement normal au moment de l'expérience. Et puis après stimulation, soi-disant, selon ses dires, et il a pu lui provoquer du plaisir, voire de l'excitation sexuelle.
Voilà, évidemment.
Voilà.
C'est évidemment la première chose qu'on fait quand on a un sujet féminin.
Voilà.
C'est ça, forcément. T'as un singe, tu lui fais arrêter de manger des bananes, mais...
Exactement.
Un sujet féminin humain, tu la stimules sexuellement, évidemment. Voilà.
On est dans les gros clichés, les grosses ficelles. Et la jeune femme se met à ricaner, elle est très bavarde, elle commence à flirter avec les chercheurs, selon ses dires.
J'aime bien le selon ses dires.
Oui, oui. Puis en plus, il faut interpréter. Ça veut pas dire, c'est pas parce qu'elle est bavarde et qu'elle ricane.
Oui, voilà, c'est ça. Oui, elle m'a chauffé après. Là, on est non. Peut-être pas du tout en fait.
Et donc, une autre expérience aussi, c'est avec un jeune garçon qui était épileptique, qui était très timide. Et puis, soudain, quand on lui fait les stimulations à un endroit précis du cerveau, Il déclare « Est-ce que vous pouvez me garder plus longtemps ici ?» parce qu'il aime beaucoup les stimulations. Et il va même jusqu'à déclarer « J'aimerais être une fille !» Donc, peut-être il regrette maintenant, c'est ce qu'il a dit.
J'ai bien à comprendre comment la stimulation te fait, te fait passer à... Je sais pas.
Puis soudain, quoi. J'aimerais être une fille.
Peut-être qu'il se révèle.
Oui, c'est peut-être que maintenant, aussi, hein, il a changé de nom et de sexe, qu'il est très content comme ça.
Bien sûr.
Voilà, mais aussi, c'était... pas que exploratoire, il a aussi fait des expériences à but thérapeutique où bon, il a refusé beaucoup de patients parce qu'il savait déjà que c'était trop difficile, certains cas étaient trop difficiles, mais une de ses plus grandes réussites, ça a été de soigner, en fait, d'arrêter la sensation de douleur d'un grand blessé, en fait, un monsieur qui avait subi un accident assez grave et qui avait en permanence des douleurs, et il a pu les enlever pour lui grâce aux stimulations. Et en fait, Delgado est assez réticent à parler des expériences sur l'homme. Il préfère à tout le temps se rapporter aux animaux, parce que, notamment parce que ça choque moins. En fait, les médias ont beaucoup repris ses travaux, ça a beaucoup circulé. Et forcément, quand le grand public s'en mêle, il y a beaucoup de controverses.
Bah, c'est vrai que tu prends un mec qui a déjà une tête de savant fou et qui en plus travaille sur le cerveau des gens,
ouais, ouais,
pour leur faire avoir des comportements qu'ils n'ont pas habituellement, et ouais, ça fait peur.
On voit des images de jeunes filles avec des implants, tout ça, donc c'est assez choquant. Alors, il y a des critiques qui sont totalement justifiées, mais après, il y a aussi des intox qui sont venus, évidemment, avec un phénomène aussi important. Des gens qui déclaraient qu'ils avaient été implantés par le professeur Delgado, qui n'étaient pas maîtres. Voilà. Comme ça, ils pouvaient réaliser des crimes. Et puis, ils disaient que non, c'était Delgado qui m'a forcé à faire
on
ça.
Des implants dans le cerveau pendant que je dormais.
Voilà. N'importe quoi. Alors, ce qui a choqué un peu aussi, c'est qu'il avait aussi quelques petits financements par l'armée. Et donc, tout de suite, les gens ont commencé à imaginer des super soldats, super obéissants qui tuent sur ordre.
Voilà. C'est ça. Et c'est marrant, c'est exactement ce dont on parlait avec Charles quand on parlait de MKO Fun.
Ouais.
Ce genre de choses. C'est-à-dire que, oui, tu vois, genre, la CIA a bien financé des exorcistes pour qu'ils donnent des cours, ouais, des trucs. Et tout de suite, on imagine que, genre, ils voulaient contrôler les pouvoirs de l'esprit. Et tu... Non, et oui, pas forcément. Mais c'est, en fait, l'imagination des gens comble les blancs.
Exactement,
dans
ça.
C'est le, et là, c'est Delgado, c'est ce qui s'est passé.
C'est le traitement qu'on fait de son travail. Alors, il y a quelque chose qui est très intéressant ce qu'il a fait, et puis ça a permis plus tard en fait ses travaux ont permis de soigner les symptômes des gens qui sont atteints de tremblements dans la maladie de Parkinson de manière très très efficace, et c'est vraiment grâce à ses travaux qu'on est arrivé à cela. Puis il y a des développements par rapport à ces travaux qui paraissent bénéfiques pour l'humanité. Par contre, il y a des dérives. Pour moi, il y a trois grosses dérives qui là permettent de juger est-ce qu'on est sur un savant fou ou pas. C'est l'éthique par rapport au sujet sur lequel il travaille. Il n'y a pas de respect du bien-être animal à cette époque-là.
Absolument aucun.
Et voilà, donc des images très violentes. Et puis sur l'homme aussi. Donc tout ça, c'est voilà, le parti éthique. Les autres dérives, ça concerne l'ampleur de ces travaux sur les autres chercheurs. Les autres chercheurs qui vont prendre ces travaux et qui vont ensuite suggérer de mettre des implants sur des Afro-Américains lors d'émeutes parce qu'ils sont trop violents en Amérique.
Selon ces chercheurs-là, c'est,
voilà,
ça qui est fou.
C'est ça qui est incroyable. Après, voilà, c'est les dérives de ce genre de travaux à grande ampleur. Un autre qui a dit qu'il avait, grâce à des stimulations, réussi à changer l'orientation sexuelle d'une personne homosexuelle.
Voilà, ce qui est complètement dingue.
Voilà.
Tout le monde pense, c'est n'importe quoi. Parce que, rappelons-le, une énième fois, les soi-disant formations pour changer l'orientation sexuelle, ouais, des gens, tout ça, c'est la grosse merde, c'est de la torture, ouais, ouais, à ne fait. Voilà. C'est vraiment, je conchis les gens qui pensent que ça marche les gens qui envoient des gens là-bas. Donc non, voilà, ça c'est...
Ouais, ouais,
ça c'est grave quand même.
Ouais, exactement, et puis c'est... Il y en a beaucoup qui critiquent ça, c'est que ça dénonce en fait les limites de la liberté de chaque être humain à être dans ce qu'on appelle la norme ou pas. Mmh. Et justement, les gens avaient peur qu'on ne puisse plus dévier de la norme parce que par un implant, par une stimulation, on allait être remis sur le droit chemin, le soi-disant droit chemin.
On voit un pattern chez ces autres scientifiques qui essayent de reprendre ensuite
le truc
de Delgado. On a le côté raciste du mec qui veut contrôler les populations afro-américaines.
Assez conservateur. Voilà.
Hein, on voit les gens qui veulent changer l'orientation sexuelle des gens parce qu'être gay, c'est pas bien pour eux.
Voilà.
On voit un profil se dessiner chez ces scientifiques-là.
Exactement. Donc ça, c'est vraiment les dérives par rapport à ces travaux-là qui concernent d'autres chercheurs. Et puis, Delgado lui-même, pour moi, c'est la troisième dérive de ces travaux qui permet de le juger. C'est qu'au-delà de juste du côté exploratoire de ses expériences, il avait quand même théorisé une véritable vision du futur pour lui. Il parlait de psychocivilisation, en fait, où Ben voilà, lui, on parlait de l'agressivité tout à l'heure. Il voulait supprimer les passions néfastes pour la société de certains êtres humains. Donc là aussi, il y a des dérives. Il avait vraiment une vision de changer l'humain, de le rendre plus intelligent, plus maître, parce que pour lui, il fallait s'auto-gérer, s'auto-stimuler pour contrôler ses pulsions et ses passions néfastes pour la société. Donc là, vraiment, c'est des travaux qui présentent des dérives majeures, mais aussi, en même temps, des exploitations qui peuvent être complètement bénéfiques pour l'humanité. Mais il se trouve que Delgado va repartir en Espagne, alors qu'il est au sommet. On se demande pourquoi. Bah, en fait, c'est parce qu'il a senti le vent tourner, et que, en fait, notamment par rapport au bien-être animal, ces travaux n'allaient plus avoir de financement, et ce genre de travaux n'ont plus de financement, et il a senti qu'il devait partir en Espagne, retourner chez lui, et travailler sur les mêmes sujets, mais d'un côté non-invasif, c'est-à-dire avec un casque qui vous fait la stimulation à travers le crâne, sans que ça nécessite une chirurgie. Donc voilà, c'est pourquoi c'est un savant fou, parce que si on va plus loin que ses travaux, si on imagine, on peut avoir une atteinte de la liberté, et qu'est-ce que c'est que la norme, et doit-on toujours suivre la norme? Et c'est lui-même aussi qui aime en parler, encore une fois dans ce reportage de la télévision française, où il va nous expliquer voilà, que sa vision des choses.
Pourquoi cette expérience? Pour libérer l'intelligence de l'homme, répond le professeur Delgado.
J'espère qu'il est possible d'éduquer différents classes de l'homme plus intelligents et spécialement plus libres. C'est les fondamentales applications de notre recherche. Est-ce que vous êtes libre aujourd'hui? Non. Vous êtes conduit par votre passion, par les gouvernements, par l'économie, par votre famille, par l'université.
Voilà, donc savant fou ou génie bienveillant, bah, c'est à tout le monde faire son opinion. Je pense que pour ma part, il y a un peu des deux. Il y a de la perversion, il est tombé dans une faille aussi où la technologie était avancée et où l'éthique beaucoup moins. Ouais, ça a changé la science, il y a encore des choses qui sont pas bien, qui se font encore sur les animaux, mais ça a beaucoup évolué, ça va continuer d'évoluer, et je pense qu'il est tombé voilà, dans une faille où il a pu faire à peu près
ce qu'il voulait. Ce qui est inquiétant, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment sur le côté, et le mec avait une vision.
Il avait une vision, ouais.
Psychosociété.
Exactement, pour lui la nature humaine elle est pas statique, elle est toujours en évolution, il faut qu'elle évolue, et pour lui est-ce qu'on peut empêcher la technologie? Et il dit très clairement non. Est-ce qu'on peut empêcher le progrès? Non. Et donc, peu importe l'éthique, peu importe vos croyances personnelles, c'est lui qui le dit, peu importe quoi que ce soit, l'homme va évoluer et va changer.
Bah écoute, je pense qu'on va terminer cette affaire là-dessus.
Ça marche.
À la recherche du vrai Frankenstein.
Alors vous connaissez forcément Victor Frankenstein, le savant fou le plus célèbre du cinéma et de la littérature, mais est-ce que vous saviez que celle qu'il a créée, l'auteur Mary Shelley, avait puisé son inspiration dans la réalité? Et oui, aussi incroyable que ça puisse paraître, de vrais scientifiques ont essayé de redonner la vie aux morts grâce au pouvoir de l'électricité. Et vous pouvez les imaginer, si vous le voulez, dans un château délabré par une nuit d'orage en train de s'extasier à la vue des éclairs. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je les vois. Alors l'histoire de la création de Victor Frankenstein commence à l'été 1816. Mary Godwin et son futur mari, le poète Percy Shelley, sont en vacances sur les bords du lac Léman. Avec leurs amis, notamment le sulfureux et célèbre poète Lord Byron, ils s'apprêtent à passer du bon temps dans la somptueuse villa Diodati à Cologne en Suisse. Mais rien ne va se passer comme prévu. L'année 1816 est surnommée l'année sans été. La météo a été détraquée par des éruptions volcaniques massives en Inde, et à la place du soleil, c'est une pluie battante qui s'abat quasiment sans interruption sur l'Europe cet été-là. Mary Shelley et ses amis passent alors des journées entières à l'intérieur de la villa, et pour passer le temps, ils parlent des derniers progrès de la science et ils s'amusent à lire des Phantasmagoriana, des histoires de fantômes allemandes qui ont été traduites en français. Un jour, plutôt un soir, Lord Byron a une idée lumineuse. puisqu'ils sont entre personnes de lettres, pourquoi ne pas se lancer en fait dans un concours d'écriture ? Et l'idée, c'est d'écrire une histoire fantastique et glaçante. Le brouillon qui a été rédigé par Byron cet été-là, et qui sera ensuite un petit peu réécrit et amélioré par son ami John Polidori, sera la première apparition d'un vampire dans la littérature, donc un été plutôt prolifique, et celui de Mary Shelley sera à l'origine de Frankenstein et de sa créature. Mary Shelley s'est inspirée de certaines expériences scientifiques menées à l'époque, en partie. Et la question qui se pose maintenant, c'est qui a servi de modèle à Mary Shelley pour le personnage de Victor Frankenstein. Alors il y a plusieurs hommes de science contemporains de Mary Shelley qui peuvent correspondre à la description. On va commencer par notre premier suspect, Andrew Cross, un Anglais qui a fait polémique parce qu'il avait assuré qu'il avait réussi à créer de la vie à force d'envoyer des courants électriques dans de l'eau. Alors, il a effectivement réussi à créer, entre guillemets, des acariens d'une espèce qui n'existait, selon lui, pas encore. Ouais. Il a été accusé de blasphème, de savant fou qui se prenait pour Dieu, plusieurs fois menacé de mort. Mais en réalité, il n'avait pas créé grand-chose, puisque comme l'ont prouvé des études ultérieures, il s'agissait en fait d'acariens très communs, qu'on trouve notamment dans le fromage ou dans la poussière, et qui étaient sans doute déjà là, dans ces instruments, mais pas encore formés, c'est-à-dire à l'état, j'imagine, je ne sais pas comment on dit, peut-être on dit à l'état larvaire pour les acariens, quand ils ne sont pas encore
écoute,
créés.
Très bonne question.
Voilà, ils étaient dans un état, ce n'était pas encore des acariens, et en fait, c'est à force effectivement d'envoyer, de propulser de l'électricité, des courants électriques dans l'eau, ça les a sans doute permis d'éclore. Donc voilà, Andrew Cross est parfois considéré comme l'homme qui a inspiré Frankenstein, mais c'est en réalité impossible, non seulement il n'avait pas réussi, et bien sûr, c'était bien un contemporain de Mary Shelley, mais ses travaux très controversés n'ont été dévoilés que 20 ans après la sortie du livre.
Ah, effectivement.
Ouais. C'est difficile, en termes de timeline, d'avoir inspiré vraiment Mary Shelley.
Ouais.
La deuxième hypothèse qui revient souvent, c'est Carl August Reinhold, qui a bien un nom de
plus savant fou.
Ce médecin allemand a sévi au début du 19e siècle. Il voulait lui aussi ressusciter, il voulait ressusciter les morts, pas créer la vie, vraiment ressusciter avec le courant électrique. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a décapité des chatons, il leur a mis du métal dans la colonne vertébrale et il a branché le courant.
Ah.
Alors, selon lui, ça a marché, mais pas longtemps. Les chatons se seraient relevés, se seraient mis à sauter frénétiquement avant de s'effondrer, mort évidemment.
Ouais.
Alors ça, c'est sa version, mais beaucoup de scientifiques l'ont accusé d'avoir menti sur ses résultats. Et heureusement, les autorités allemandes ont interdit en 1804 de faire ce genre d'expérience sur des cadavres humains.
Ouais.
Parce que lui, il était plutôt parti pour essayer.
Ouais, il était chaud, je pense.
Il était complètement chaud. Surtout que Carl August Reinhold, c'était vraiment le vrai savant fou. C'était un mec hyper inquiétant. Il était très laid, on le décrit comme très laid, avec une démarche assez dérangeante et surtout des idées atroces. Parce que pendant sa carrière, il a aussi suggéré d'éliminer la pauvreté et la surpopulation en faisant coudre le prépuce des pauvres.
D'accord.
Et en le soudant ensuite avec du métal. Donc voilà, on sait que lui avait une difformité au niveau de son pénis et les gens se sont demandé si c'était par rapport à ça
qu'il voulait se venger.
Voilà, on ne sait pas. En tout cas, il y a peu de chances que malgré son CV très très rempli, il ait servi d'inspiration à Mary Shelley, puisque ses travaux sur les pauvres petits chatons décapités n'ont été publiés qu'en 1817. 1817, c'est environ un an après les premiers brouillons de Frankenstein. Donc peut-être pendant l'écriture du roman.
Ouais.
Mais en tout cas, sur le premier brouillon qui a été fait cet été-là à la Villa Diodati, c'est impossible. Alors, il nous reste encore deux Frankenstein possibles.
Ouais.
Et attention, je préfère prévenir, ceux-là, c'est du lourd, ceux-là, c'est potentiellement eux. Je pense que c'est un des deux.
Je crois que c'est ceux que je connais, parce que les autres, je ne connaissais pas.
Peut-être. Donc, le premier, alors, c'est plutôt un deux en un, celui-là. Parce que tu vois, c'est la même famille, mais c'est deux personnes qui faisaient les mêmes expériences. En 1780, Luigi Galvani, un professeur d'anatomie italien, connaît évidemment, a fait une étrange découverte pendant qu'il disséquait des grenouilles. Il s'est rendu compte qu'en leur mettant une décharge électrique, les muscles de ces grenouilles mortes se contractaient et donnaient l'impression qu'elles bougeaient. Alors ce procédé est resté dans l'histoire des sciences comme le galvanisme, c'est Galvani qui a donné son nom à ça. Il donnera aussi son nom à l'expression se sentir galvanisé, donc c'est par rapport à ça. Et il publie ses travaux 11 ans plus tard, donc en 1791, et ses expériences font énormément de bruit. Pour beaucoup des observateurs de l'époque, Luigi Galvani aurait tout simplement trouvé comment raviver l'étincelle de la vie. Ce qui est déjà pas mal, en soi. C'est plutôt bien s'il avait vraiment réussi ça. Et son neveu, Giovanni Aldini, qui est lui aussi scientifique, décide de voir ce que ça donnerait, cette expérience des grenouilles, sur un corps humain. Et c'est à partir de là qu'on entre vraiment dans un délire à la Frankenstein.
Ouais.
Le 17 janvier 1803 se déroule une des expériences les plus controversées de l'histoire des sciences. Giovanni Aldini mène une expérience macabre devant le Royal College des chirurgiens à Londres. Il prend le corps fraîchement pendu de George Foster, un monsieur qui avait été condamné à mort pour le meurtre de sa famille. Il lui attache certaines parties du corps à des piles électriques et allume le courant.
Oula.
Voilà. Il commence par le visage, et pour le plus grand effroi de tout le monde dans l'assistance, un des yeux de George Foster s'ouvre, et son visage prend un rictus de douleur, comme s'il était encore vivant et sous la torture.
Oula.
Aldini enchaîne ensuite les démonstrations, en mettant des fils électriques à différents endroits du corps, et il termine avec le grand final. Il attache un fil électrique à une oreille du cadavre, et il glisse l'autre fil dans le rectum du cadavre.
D'accord.
Et à ce moment-là, il branche le courant, et le cadavre se met à danser devant l'assistance. Il est à moitié choqué, à moitié émerveillé par ce qui est en train de se passer, surtout choqué, j'imagine. Donc voilà, une espèce de danse un petit peu macabre, tous les membres de ce cadavre qui commencent à s'agiter de spasmes dans tous les sens.
Bon, j'imagine que c'est pas une vraie danse qu'il a réalisée.
Non, ça a été décrit comme ça par la presse de l'époque. Voilà. Ça a été rapporté notamment dans le London Times, et forcément, le London Times étant un journal très important, ça a eu beaucoup de retentissement. Et je pense que c'est pour ça que Aldini fait un bon suspect. On sait aujourd'hui, par les différentes études qui ont été menées sur la vie de Mary Shelley, qu'elle avait entendu parler du galvanisme et surtout de cette expérience d'Aldini en 1803 sur le condamné à mort.
Ouais, ça y ressemble avec l'électricité, la foudre qui réanime un corps.
Alors tu verras que notre quatrième suspect...
Il est pas mal aussi.
Il est pas mal aussi. Alors au début de l'année, donc de l'année 2018, hein, si vous nous écoutez plus tard, voilà, c'était au début de l'année 2018, l'universitaire Alain Morvan était invité dans l'émission Autant en emporte l'histoire sur France Inter. Alors Alain Morvan, c'est un universitaire qui connaît très bien la vie de Mary Shelley, puisqu'il a déjà écrit plusieurs livres sur elle et la création de Frankenstein. Il a aussi dirigé la traduction du livre dans la Pléiade, donc il s'y connaît très bien. Ouais. Et il rappelle qu'effectivement, les expériences sur le galvanisme étaient vraiment dans l'air du temps à l'époque, et on pensait que l'électricité pouvait tout réaliser. Et selon lui, il n'y avait qu'un pas à franchir pour imaginer que l'électricité pourrait vraiment redonner un jour la vie à des morts. Et selon lui, c'est ce pas-là que Mary Shelley a fait en écrivant Frankenstein.
Ouais.
Alors, le dernier Frankenstein potentiel, c'est Johann Conrad Dippel. Je pense que c'est plutôt Johann. C'est un allemand aussi. Donc, je vais dire.
Ouais.
Johann Conrad Dippel, alchimiste et physicien allemand.
Déjà, alchimiste, ça part mal.
Tu vas voir l'époque. Alors, il est mort en 1734,
c'est-à-dire
bien avant la naissance de Mary Shelley. Mais son profil, c'est vraiment celui du docteur Frankenstein ultime.
Ah.
Vraiment. Dippel est né au château Frankenstein.
C'est pas mal, c'est un indice, déjà c'est un indice. C'est
un gros indice dans le sud-ouest de l'Allemagne. Alors, il faut savoir que les Frankenstein, c'était surtout une famille de nobles allemands. Hein, ils avaient un château fort dans la petite ville de Multal. Ouais. Et c'est là-bas qu'est né Dippel en 1673. Monsieur est littéralement né au château Frankenstein. Déjà, ça commence bien. En grandissant, au fil de ses études en alchimie, il a commencé à faire d'étranges recherches. Il y a beaucoup de rumeurs sur Dippel, pas toujours vérifiées, mais qui ont en tout cas créé sa légende. On dit qu'il aurait déterré des cadavres dans les cimetières environnants pour pratiquer d'étranges expériences. Miranda Seymour, qui est une des biographes de Mary Shelley, raconte que Dippel était convaincu qu'il pouvait redonner la vie à des cadavres en leur injectant une décoction à base d'os de mammifères et d'os humains.
D'accord.
Pourquoi pensait-il ça? Ne me pose pas la question.
Ça, c'est le côté alchimiste.
Et justement, dans le livre Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley, Victor Frankenstein utilise aussi des os d'animaux pour réaliser sa créature. Il n'y a pas que des os humains. Il y a beaucoup d'autres légendes qui circulent sur Dippel. On dit qu'il serait mort à 135 ans grâce à des mystérieux élixirs de vie. Bon, en réalité, il est mort à 61 ans, c'est prouvé. Il aurait aussi pratiqué le cannibalisme, etc. Donc toutes ces rumeurs-là sont devenues une espèce de légende.
Ouais, il tenait une couche quand même.
Alors, rien de tout ça n'est vérifié à 100%. Voilà, c'est vraiment une légende qui a commencé à se créer autour de ce personnage un peu mystérieux. Et cette légende-là serait arrivée aux oreilles de Mary Shelley. Et c'est là qu'on entre sur le fait pourquoi c'est un suspect vraiment très bon. Il y a un académicien qui s'appelle Radu Florescu, qui est professeur émérite d'histoire au Boston College, donc ce n'est pas rien, monsieur. Il s'est penché sur la vie de Mary Shelley, et selon ses découvertes, Mary et Percy Shelley auraient visité le château Frankenstein en 1814, c'est-à-dire 2 ans avant leurs vacances en Suisse avec Lord Byron, Polidori et toute la clique. Selon lui, ils auraient alors entendu, en arrivant sur place, la légende, donc vraiment à l'état de légende, hein, pas les faits réels, sur Dippel, et ça aurait donc inspiré le professeur Frankenstein. Et Radu Florescu explique qu'il est tout à fait possible que Mary Shelley ait volontairement omis de citer ce nom-là dans ses notes, parce qu'il y a des notes, et elle ne cite jamais de scientifique dedans. Elle aurait omis de le citer pour pas être accusée d'avoir simplement copié la réalité ou cette légende locale. C'est sa thèse en tout cas, elle fait pas l'unanimité, mais c'est sa thèse. Parce qu'il y a d'autres historiens et professeurs de littérature qui assurent de leur côté que rien permet d'affirmer avec certitude que les Shelley sont ne serait-ce que passés par là en 1814.
Ah.
parce que la présence d'Echele au château Frankenstein en 1814 serait attestée en fait dans des journaux intimes de Marie Echele qui ont disparu.
Oula, ouais.
Donc voilà, c'est compliqué de l'affirmer à 100% qu'ils sont passés par là. Mais bon, comme le personnage du livre a le même nom que le château, la coïncidence est quand même assez troublante, quoi. Alors voilà, maintenant j'en ai fini avec mes suspects. Qui est Frankenstein ? J'aimerais bien que tu me dises qui, selon toi, est le vrai Frankenstein.
Écoute, franchement, Johan, il a l'air pas mal quand même.
Johan Conrad Dippel ?
Ouais.
Il est pas mal. J'aime bien Aldini aussi. Hein.
Oui, Aldini. Alors moi, je connaissais pas Johan Conrad Dippel.
Oui.
Comment tu dis ?
Dippel.
Non, je connaissais pas. Je connaissais le galvanisme et tout ça. Aldini, j'avais entendu parler, mais là, quand même, notre petit Johan, il, au-delà des expériences, il y a quand même un folklore derrière qui ressemble pas mal à
l'histoire. Ah oui, c'est hyper gothique. En fait. Ouais,
voilà.
On a ce savant fou dans son château fort qui va
déterrer des cadavres. Voilà,
il y a des
cimetières, il y a pas mal.
Pour moi, en fait, ça pourrait être un mix entre justement Dippel et Aldini, parce qu'il manque un élément crucial à Dippel, c'est l'électricité.
Ouais.
Et c'est vrai que l'électricité est vraiment au centre de Frankenstein, du bouquin, quoi.
Alors, je sais... Bah, oui, tu l'as lu, toi ?
Le bouquin ?
Ouais. Moi, je l'ai lu, on l'avait lu en classe.
Ouais.
Et je me rappelle plus s'il y a l'électricité dans le livre original, en tout cas dans toutes les représentations après, dans les films, voilà. Ça, il y a toujours la foudre qui intervient, quoi.
Ouais. Moi, je ne saurais pas te dire, parce que du coup, j'ai vu effectivement beaucoup d'adaptations de Frankenstein, que ce soit en film, en série ou quoi que ce soit. C'est vrai que le livre original, j'aurais peut-être dû le lire avant de préparer ça, mais parce que du coup, je me suis appuyé sur les travaux d'experts de Marie Shelley et de cette partie-là, qui voilà, faisait les ponts entre la réalité et donc le livre, la fiction. En fait, il y a évidemment ces suspects-là, donc ces deux-là, surtout Dippel, j'imagine. Ouais. Mais il faut surtout pas négliger l'aspect que Frankenstein, ce n'est pas que grâce à... C'est pas une inspiration uniquement scientifique. En fait, en 1816, il y avait déjà cette ambiance complètement gothique dans la Villa Diodati, avec les éclairs qui frappaient tout le temps, la pluie incessante tous les jours. Et surtout, Marie Shelley avait perdu un enfant, plus tôt.
Ah.
Et ça, pour le coup, c'est consigné, tout est vrai. Et ça l'avait beaucoup affectée, et elle avait envie, en fait, ça faisait très longtemps que ça la travaillait, cette histoire de redonner la vie. Et donc ça, plus Galvani, plus Aldini, ça lui a donné voilà, cette idée-là. Alain Morvan, d'ailleurs, dans Autant n'importe l'histoire, précisait que la principale source d'inspiration de Frankenstein, c'est quand même le psychisme de Marie Shelley, qui était assez affecté à ce moment-là. Et après, voilà, tout ce bouillonnement culturel qu'il y a eu entre les histoires de fantômes, entre voilà, les discussions tout au bout de la nuit sur les dernières avancées de la science et sur les polémiques sur l'expérience d'Aldini. Ça peut avoir donné ça, mais ça reste avant tout voilà, ce qui se passait dans la tête de Marie Shelley à cette époque-là.
Ouais.
Donc pour moi, l'affaire est classée.
L'affaire est classée. Mais alors, t'en as cité que 4, mais il y en a... je pense que tu les as vus quand t'as fait les recherches.
Oh, oui.
Il y en a beaucoup qui ont tenté des choses... sur la réanimation des corps, notamment d'animaux, de chiens, où il y a même une vidéo sur YouTube. Je crois que le chien s'appelle Lazarus. C'est Lazare.
Il porte très bien son nom.
Ouais, et c'est facilement trouvé. Alors, je ne me rappelle plus du chercheur en question. Je pense qu'il est russe.
Oui, c'est... oui. Et
je ne sais pas si tu l'as vu.
C'est quelque chose, un savant russe qui fait ça.
Où ils donnent... on voit une vidéo sur YouTube, tout est filmé. Où donc le chien est mis à mort on lui enlève très proprement tout son sang, il finit par mourir et on attend une dizaine de minutes, puis on lui remet le sang, on lui donne des impulsions électriques, il me semble.
Est-ce que c'est pas le docteur Demikov
c'est très possible.
Qui a essayé de mettre des têtes de chiot sur un chien, c'est-à-dire qu'il a fait des chiens à deux têtes aussi.
Oui, il avait d'autres projets, il avait des side projects assez intéressants aussi. Mais alors lui, pour le coup, aussi, vrai savant fou. Mais il y a la vidéo sur YouTube où on voit, alors soi-disant, on va faire confiance au montage de YouTube, où on voit qu'après, quelques jours après, le chien est sur ses pas, tranquille, il lèche
la personne qui fait recherche. Alors en fait, c'est pas vraiment passé comme ça, je crois que c'était quelques heures seulement.
Ah ouais.
Mais effectivement, et c'est ça qui m'intriguait beaucoup dans cette histoire, on dérive un petit peu, mais c'est que les chiens qui avaient été ranimés à ce moment-là, pendant quelques heures, a priori, c'est ce que je disais dans le livre Elephants on Ice Hill dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, sentaient qu'il y avait quelque chose de bizarre avec ces chiens-là. C'est-à-dire que les autres chiens, en leur présence, sentaient qu'ils n'étaient pas normaux, quoi. Qu'il se passait un truc bizarre. Et comme on sait que les animaux ont des sens,
ouais.
Ça m'avait un petit peu titillé quand j'avais lu ça. Ça me fait un petit peu frissonner quand je lisais l'histoire en me disant « Ouh, putain, les chiens, ils me sentent. Ouh, on n'est pas à l'aise. » Enfin bon, en tout cas, pour Frankenstein, à l'époque de Mary Shelley, les contemporains de Mary Shelley, parce que là, ce que tu disais, ça se passe dans les années... C'était pendant la guerre froide. D'ailleurs, certains de ces scientifiques-là ont beaucoup inspiré les scientifiques français, enfin les chirurgiens français qui ont fait les premières greffes de cœur, etc.
Exactement.
Ils ont été inspirés par ça.
C'est tout la complexité des savants fous. Qu'est-ce qui est vraiment utile et qu'est-ce qui tient vraiment directement de la folie et des abus.
Et en parlant de folie, on va passer à notre dernier dossier.
The Russian Sleep Experiment. Alors, je vais vous parler, en fait. Tout à l'heure, on vous a parlé de scientifiques très réels qui existaient, des scientifiques hardcore, hein, pour la plupart. Mais je voulais aussi vous parler, parce que j'aime beaucoup ça, d'un creepypasta sur une expérience scientifique.
Oui, les creepypasta, on adore ça. Nos auditeurs adorent ça également.
Donc voilà, petit disclaimer, c'est totalement fake.
Voilà. Mais par contre, si vous voulez aller vous coucher maintenant parce que ça va faire un petit peu peur, vous pouvez arrêter l'émission maintenant, revenir demain matin quand il fait jour. Voilà. On vous en voudra pas. Allez-y.
Ouais, pas de souci, vous reprenez quand vous le souhaitez. Alors, je vais donc vous parler de cette expérience qui a été réalisée, soi-disant, dans les années 40, en Russie. Cinq prisonniers politiques ont participé à l'expérience. On leur a promis de les libérer à la suite de l'expérience. Alors, apparemment, à tort. C'est ce qui explique l'histoire. Et donc, ces prisonniers vont être maintenus éveillés par un gaz stimulant pendant 15 jours. 15 jours sans dormir. Déjà, moi, je ne fais pas la sieste, je ne suis pas bien. Donc là, on est sur 15 jours sans sommeil. La pièce où ils sont enfermés contient de l'eau courante et des rations de nourriture largement suffisantes. Et la pièce est équipée de micros, mais aussi de vitres d'observation. Leur consommation d'oxygène est aussi mesurée en permanence. La pièce dispose de nombreux livres, au cas où ils s'ennuient, les pauvres, ainsi que de lits de camp, par contre pas très confortables, puisqu'il n'y a pas de matelas, il n'y a pas de literie, quoi. C'est juste des lits de camp, ils peuvent s'allonger dessus.
En même temps, ils sont censés pas dormir.
Voilà. Alors, au début, tout se passe calmement, durant les 5 premiers jours, du moins. Les sujets sont paisibles. On remarque que les sujets discutent cependant de plus en plus des épisodes traumatisants de leur vie. Au fur et à mesure, les conversations deviennent de plus en plus dark, surtout au quatrième jour. Et au cinquième jour, les sujets commencent à devenir paranoïaques. Les chercheurs le notent. Ils n'arrêtent pas de ressasser sans cesse les événements qui les ont conduits jusqu'à cette expérience. Ils ont arrêté de parler entre eux. Au début, ils parlaient beaucoup entre eux, ils ont arrêté de parler entre eux, mais ils se mettent tour à tour à chuchoter au micro de la pièce, à chuchoter aux scientifiques.
Un petit peu comme ça.
Exactement. Il semblerait que chacun, en fait, tente de gagner la confiance des expérimentateurs et se mette à accuser les autres prisonniers.
Ouais, Gérald, il a fait ça, je trouve que c'est pas cool, c'est pas très cool, franchement.
Mais à tour de rôle, il chuchote aux expérimentateurs. Et puis ça va devenir beaucoup plus dark, vous allez le voir, puisque après 9 jours, un des sujets, donc ils ne se parlent plus entre eux, un des sujets se met soudainement à crier de toutes ses forces pendant plusieurs heures. Et il se met tellement à crier qu'il va même rompre ses cordes vocales. Mais ça ne va pas l'arrêter, puisqu'il va continuer à crier, mais seulement sans son, puisqu'il ses cordes vocales sont brisées. Il va continuer en fait à mettre des plaintes qui sont assez peu inaudibles, comme des espèces de gémissements. Les chercheurs remarquent avec surprise. En fait, ils voulaient savoir la réaction des autres par rapport à cela. Et ce qui, en fait, qui est très surprenant, c'est qu'ils n'ont pas de réaction. Aucune réaction. Ils continuent même à faire leur confidence chuchotée au micro, comme si de rien n'était. Par contre, un deuxième sujet se met à crier. Et là, tout bascule brutalement. Les sujets qui étaient parfaitement calmes s'activent soudainement. Certains prennent des livres et en déchirent de nombreuses pages et les enduisent avec leur propre sel, leur propre défécation, et les collent aux vitres, comme du mastic. Ils les collent aux vitres. Une fois les points d'observation complètement obstrués, les scientifiques ne peuvent plus rien voir, les cris s'arrêtent immédiatement. Plus personne ne crie. Alors, maintenant les scientifiques sont complètement à l'aveugle. De plus, les chuchotements au micro ont totalement cessé. Il se demande même si le micro fonctionne toujours, parce qu'il y a 5 personnes dans la pièce, 5 hommes dans la pièce, et ils n'entendent vraiment rien. Ils devraient entendre quelque chose. Les 3 jours suivants, les chercheurs tentent de checker leur matériel, qui n'enregistre plus rien, mais rien d'anormal apparemment, selon eux, de leur côté, rien d'anormal, les micros fonctionnent. Alors, est-ce que les sujets sont morts? Est-ce qu'il y a un problème quelconque avec les sujets? Donc ils regardent les enregistrements de consommation d'oxygène, mais non, tout indique qu'il y a encore les individus dans la pièce, et en plus, selon les niveaux d'oxygène, apparemment, ils ont une activité, et même une activité très importante. À l'intérieur de la pièce, où ils ne peuvent plus rien voir, ça s'agite de manière assez importante, sans aucun bruit. Au 14e jour, donc la veille du dernier jour, les chercheurs là, décident de pénétrer dans la pièce pour vérifier les dispositifs. Personnellement, si c'était mon expérience, là j'aurais vu il y a quelque temps que ça commençait à foirer, j'aurais revu mon protocole et j'aurais essayé de recommencer. Ils annoncent leur arrivée au sujet via l'interphone, parce qu'ils ne veulent pas arriver de but en blanc dans la pièce. « Nous allons rentrer pour vérifier nos équipements. Écartez-vous de la porte et allongez-vous au sol. Si vous coopérez, votre peine sera immédiatement effacée. » Leur peine de prison. Une voix calme leur répond « Nous ne voulons plus être libérés. » Ça fait quand même très longtemps qu'ils n'ont plus entendu la voix de leur sujet. Et là, ils la entendent pour la première fois. Donc ils annulent leur rentrée. Et ils tentent de dialoguer à travers cet interphone avec la personne qui a parlé, mais plus rien, plus aucune manifestation des sujets. Au 15e jour, ils décident d'ouvrir la salle à minuit. Le gaz stimulant est retiré et l'on fait circuler de l'air frais dans la pièce. Immédiatement, les microphones se remettent à transmettre quelque chose, alors qu'ils étaient complètement muets jusqu'à présent. Les sujets sont en train de supplier de ne pas les faire sortir et de remettre le gaz stimulant. Comme s'ils suppliaient pour leur vie. Et vraiment, avec une intensité énorme, ils supplient pour le retour des conditions qui les empêchent de dormir. Les chercheurs font ouvrir la porte par des soldats et des cris atroces s'en dégagent dès qu'ils ouvrent la pièce. Ces cris viennent des sujets, mais aussi des soldats qui sont horrifiés par ce qu'ils y trouvent. 4 des 5 sujets ont survécu. Il y en a un qui est mort. Et tous sont gravement mutilés. Tous présentent de larges portions en fait, de peau et de chair qui sont arrachées de leur corps. Les scientifiques, plus tard, ils vont conclure qu'il s'agit d'automutilations qui ne sont pas faites par les dents, ils ne se sont pas mordus, mais avec leurs mains. Doucement, ils ont réussi à arracher leur peau avec leurs ongles et leur chair. Leur abdomen est ouvert et leur intestin, qui est encore fonctionnel et apparemment qui sont en pleine digestion, ont été sortis des corps et sont déposés à même le sol. Et les organes vitaux, comme les poumons, le cœur, sont visibles à travers les cages thoraciques qui sont abîmées, transpercées. Donc une véritable vision d'horreur. La pièce est remplie d'eau et de sang. Apparemment, la chair du sujet qui est décédé a servi à boucher l'évier qui amenait l'eau courante. Et les stocks de nourriture sont seulement entamés, très peu touchés. Il semblerait que les prisonniers aient ingéré leur propre bout de chair qu'ils s'étaient arraché. Les cris et les supplications pour refermer la porte continuent, et certains soldats ne veulent pas pénétrer dans la pièce. Pourtant, les forces s'organisent, et on décide de déloger les occupants. Bizarrement, même atrocement blessés, les sujets ripostent violemment, avec une force extrême. Un soldat est même tué durant l'opération, après avoir subi une violente attaque à la gorge. Un autre est gravement blessé, alors le pauvre s'est fait arracher ses testicules, et mordre au niveau de la cuisse, et l'artère fémorale a été touchée, il est gravement blessé. De l'autre côté, il y a un des sujets qui est décédé durant l'assaut, suite à une hémorragie, en fait, sa rate s'est déchirée, puisqu'elle était complètement exposée, et il fut impossible de le sédater pour tenter de le soigner. Plus il mettait de sédatifs, plus le sujet était excité, ça n'avait aucun effet, même à des quantités très importantes. Les médecins furent blessés, en fait, même durant la tentative. Les 3 sujets restants furent attachés très solidement et emmenés au centre médical. Les 2 ayant toujours leur corde vocale, on a celui qui a perdu sa corde vocale et on a 2 autres où la corde vocale sont intactes, suppliaient pour qu'on les replace dans la pièce et qu'on les empêche de dormir. On tenta à nouveau de sédater un des sujets. Il a lutté avec une force colossale et même avec des doses extrêmes de sédatifs. jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, ses yeux finissent par se fermer et qu'il décède instantanément d'un arrêt cardiaque. L'autopsie révéla qu'il s'était brisé plusieurs os en tentant de se débattre de ces liens qui le retenaient. Les médecins tentèrent ensuite d'opérer le sujet qui avait perdu la voix. Au vu de l'expérience précédente, un des médecins évoqua, en fait, dans la panique, la possibilité de réaliser la chirurgie sans anesthésie. Et contre toute attente, le sujet en question a hoché de la tête et a fait signe que c'est ce qu'il voulait. La lourde chirurgie réparatrice a commencé, à contre-cœur pour l'équipe médicale, parce qu'elle était très choquée de faire ça sans anesthésie. Et le sujet muet ne montra aucun signe d'inconfort ni de douleur durant la chirurgie, pourtant extrêmement douloureuse. Au contraire, une des infirmières rapporta même que le patient lui la regarda plusieurs fois et lui sourit au cours de l'opération plusieurs fois. Dès que la chirurgie se termina, le muet se mit à gémir fortement et recommença à se débattre. Sous ordre du médecin, on lui apporta du papier et un stylo pour qu'il puisse communiquer, expliquer. Le médecin pensait qu'il peut-être il avait une gêne quelque part. Il voulait savoir ce qu'il en pensait et le sujet en fait écrivit simplement « Continuez à couper ». Le dernier sujet subit lui aussi la chirurgie sans anesthésie, mais cette fois avec l'ajout d'un agent paralysant. Il est plus maîtrisable et il arrive toujours à communiquer. L'agent paralysant montre de l'efficacité, mais de manière temporaire. On demanda au sujet pourquoi il voulait absolument retourner dans la pièce de test. « Je dois être éveillé, je dois rester éveillé », dit-il. On replaça les sujets dans la chambre en attendant de décider leur sort, puisqu'ils étaient incontrôlables. Les chercheurs voulurent euthanasier les sujets parce qu'ils n'en voyaient pas la fin, ils ne savaient pas comment résoudre ce problème, et pour éviter plus de souffrance. Mais les ordres du KGB furent différents, notamment plusieurs colonels, qui voulaient que les sujets retournent dans la chambre pour voir ce qui allait se passer, et puis qu'ils soient accompagnés de 3 chercheurs qui soient enfermés avec eux dans la pièce. Un des chercheurs qui était désigné, bien sûr, il était atrocement choqué par cette expérience, et qui voulait surtout pas rester enfermé avec pour ce qu'il avait pour lui en face de lui, c'était des monstres. Il sortit une arme et tua à bout portant le commandant qu'il avait assigné à cette tâche. Il se retourne et tira ensuite sur le sujet muet et le tueur en le touchant en pleine tête. Le chercheur armé se tourna enfin vers le dernier sujet survivant. Tout le personnel a fui la pièce, laissant le chercheur et le sujet maintenu allongé sur son brancard. Il était horrifié à l'idée de se retrouver enfermé avec le sujet. Et donc le chercheur lui crie avec panique « Qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu es ? Réponds !» Le sujet allongé tourna la tête vers l'homme armé et sourit. Il répondit « As-tu donc oublié ? Je suis vous. Je suis ce qui se cache au plus profond de vous, suppliant d'être enfin libre. Je suis ce que vous sédatez et paralysez à chaque fois que vous allez dormir, pour m'empêcher de prendre le contrôle. » Le chercheur, choqué, prit quelques secondes pour contempler en horreur les paroles du sujet, puis tira en plein cœur de l'homme. Le sujet agonisa pendant quelques instants et prononça ces mots étouffés, presque libre, avant de mourir.
Ah, on est sur du lourd. Moi, j'ai lu ça avant de me coucher la dernière fois. C'était pas mal.
Et ça m'est pas à l'aise. Je me souviens la première fois que je tombais là-dessus sur cette creepypasta.
Tu connaissais, oui.
Ouais, je la connaissais. Je crois que c'est l'autre une des plus célèbres avec Kendall Cobb et tout ça. Ouais. C'est au tout début où j'ai commencé à m'intéresser aux creepypasta, j'étais tombé dessus. Et j'étais en mode, ok, ça fait peur, ça fait peur. Et à la fin, ce que dit le.
Ouais.
Le truc, en mode, je suis la part.
Ouais. Moi, j'imagine une grosse voix.
Je suis vous. Je suis ce qui est en vous.
Un peu diabolique.
Voilà.
Ouais, c'est exactement ça. Et là, quand j'ai lu ça, j'ai bien frissonné. Et ouais, là, je suis content que tu l'aies faite. Elle est vraiment bien, cette histoire.
Ouais, mais voilà, je voulais choisir un truc comme ça parce que j'adore les creepypastas. Et alors là, je tiens vraiment à dire, encore une fois, on précise, c'est super fake. C'est même tellement fake que c'est moi qui ai changé un petit peu la fin parce que je sais pas
le rendre cohérent
parce que c'était pas cohérent du tout. Il faisait revivre des sujets et tout d'un coup il disait qu'ils étaient 3 alors qu'ils étaient 2, donc j'ai essayé de m'arranger avec ça. Par contre, j'ai fait des recherches supplémentaires sur la privation du sommeil parce que je me suis dit ok, d'accord, ça c'est fake, mais qu'est-ce qui se passe en vrai?
T'as trouvé des trucs inquiétants?
Oui, je suis allé, alors vous pouvez le trouver vous-même, c'est sur les cours de l'université de Lyon 1.
Ouais.
qui traite de la privation de sommeil.
Et en fait, alors il y a beaucoup de choses. Alors, une irritabilité, irritabilité croissante.
Oui, on peut parler de quelqu'un de très irrité qui s'arrache les bouts de peau.
Ouais, oui, là, on commence à être irrité.
Très, très irrité.
Et puis, alternance entre l'euphorie et la dépression. Une indifférence à l'environnement, à ce qui se passe autour. Et puis, le désir de rester seul. Voilà, là, il parlait de paranoïa dans Creepypasta, c'est quelque chose qui se retrouve aussi. Puis des hallucinations qui se développent et qui le sujet voit du brouillard et des fois il voit des cheveux, des poils qui sont sur lui, il essaye de les enlever mais il n'y a rien. Voilà, beaucoup de choses assez inquiétantes au niveau de la privation de sommeil et surtout la désorganisation de la pensée. Où la personne a beaucoup de mal à se concentrer vraiment et commence à délirer complètement.
Et dis donc, voilà. Du coup, je suis un petit peu désolé d'empêcher nos auditeurs de dormir avec ces histoires effrayantes.
Non.
Parce qu'après, ils vont être irritables, ils vont commencer à voir des choses devant leurs yeux.
Ouais, exactement.
Non, ça arrive au bout d'assez longtemps de privation de sommeil quand même. C'est au...
Voilà.
Hein, c'est pas tout. Si vous faites une nuit blanche, vous n'allez pas
commencer. Ne vous inquiétez pas. J'ai fait une nuit blanche. Quelques fois, il s'est rien passé.
Ça va, tu t'es pas mis à t'arracher des bouts de peau et à crier jusqu'à perdre tes cordes vocales.
Très très peu.
Parfois.
Ça va.
Bon, allez, on va clôturer ce dossier.
Ouais.
Qui était très bien, j'étais très content de l'avoir entendu.
Bah, c'est très gentil.
Avant de conclure ce numéro du Bureau des Mystères, j'avais une petite annonce à vous faire. Charles sera bientôt de retour dans l'émission, et à cette occasion, nous avons l'intention de préparer un petit numéro FAQ. Ce sera la première de l'émission, c'est vrai qu'on vous répond parfois sur les réseaux sociaux, mais là, ça pourrait être le bon moment pour que vous nous posiez tout plein de questions et qu'on y réponde ensemble dans un numéro spécial. Donc vous pouvez dès à présent nous les envoyer sur les réseaux sociaux, sur Twitter, donc @BDMLePodcast, et sur Facebook, la page Charles et Mathias, et on essaiera de répondre au maximum de vos questions. Cette session de travail du Bureau des Mystères est désormais terminée. Merci à vous de l'avoir écouté et surtout merci à toi Raphaël d'être venu dans cette émission.
Merci de m'avoir invité, c'était très sympa.
Avec ces sujets fort intrigants et cette creepypasta très effrayante, où est-ce que nos éditeurs peuvent te retrouver Raphaël ?
Écoute, ils peuvent me retrouver sur d'autres podcasts de Rivière à Ferraille, s'il y a des épisodes, je ne sais pas au niveau de la chronologie, mais des épisodes de Rivière l'étante, tout ce que mon oncle me laisse faire avec lui comme bêtise en fait.
Notamment cette saison qu'on fait rattraper en intégralité de spoilers arrière sur SAS, Ramener les vivants, qui était vraiment très cool. Et donc de Rivière à l'étante évidemment. Nous, vous pouvez nous retrouver, vous commencez à le savoir maintenant, sur la page Facebook Charles et Mathias ou sur le compte Twitter @BDMLePodcast et évidemment sur Rivière à Ferraille. Et nous, on vous dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Et d'ici là, pensez à bien dormir la nuit.